Ces travailleurs amenaient avec eux tout ce qui était nécessaire à leur entreprise, des tissus de chogot avec lesquels façonner des bêtes de somme et d'autres matières protoplasmiques pour en faire des organismes phosphorescents destinés à l'éclairage. Enfin, une immense métropole s'était élevée des profondeurs de cette mer stygienne. Son architecture était fort semblable à celle qui s'étendait à la surface, mais n'en partageait pas la décadence en raison des éléments mathématiques précis ayant présidé à sa construction. Les chogotes nouvellement créés avaient acquis une taille impressionnante et une intelligence singulière, et ils étaient représentés comprenant et exécutant les ordres avec une célérité remarquable. Ils semblaient converser avec les anciens, en imitant leur voix, une sorte de sifflement musical sur une gamme étendue, d'après ce qu'indiquait la dissection réalisée par ce très malheureux Lake, et, contrairement à autrefois, suivaient plutôt des ordres vocaux que des suggestions hypnotiques. Néanmoins, les anciens les contrôlaient parfaitement. Les organismes phosphorescents fournissaient de la lumière avec une remarquable efficacité et devaient sans doute compenser l'absence des aurores boréales qui illuminaient habituellement les nuits du monde extérieur. L'art et la décoration continuaient d'être pratiqués, bien qu'il s'y rajoutât une certaine décadence. Les anciens eux-mêmes avaient dû le comprendre. En bien des occasions, ils avaient anticipé la politique de Constantin le Grand en apportant de la cité terrestre des sculptures particulièrement réussies, tout comme l'empereur, sentant venir un déclin similaire, avait arraché leurs plus belles œuvres d'art à la Grèce et à l'Asie pour donner à sa nouvelle capitale de Byzance une splendeur plus grande que celle que son peuple aurait pu créer. Si le transfert n'avait pas été plus étendu, c'était sans doute parce que la cité terrestre n'avait pas été immédiatement abandonnée. Au moment où elle s'était retrouvée totalement désertée, ce qui avait sûrement eu lieu alors que le Pléistocène polaire n'était pas encore très avancé, les anciens avaient sans doute fini par se contenter de cette nouvelle forme d'art ou avaient cessé de reconnaître la supériorité des bas-reliefs anciens. Quoi qu'il en soit, les ruines silencieuses qui nous entouraient n'avaient visiblement pas été dépouillés de leur sculpture, bien que les plus belles statues autonomes aient été emmenées avec tout ce qui était amovible. Les cartouches et les plaintes décadents qui racontaient cette histoire étaient, comme je l'ai dit, les derniers que nous ayons pu trouver au cours de notre exploration limitée. De leur examen, nous avons gardé une vision des anciens faisant des allers et retours entre la cité terrestre en été et la ville des grottes sous-marines en hiver, et commerçant à l'occasion avec les villes aquatiques de la côte antarctique. À ce stade, ils devaient avoir reconnu que la cité terrestre était condamnée, car les sculptures témoignaient de l'avancée progressive et sournoise du froid. La végétation déclinait, et les terribles neiges de l'hiver ne fondaient plus entièrement, même en plein été. Les sauriens servant de bétail étaient presque tous morts et les mammifères ne résistaient pas très bien non plus. Afin de répondre aux besoins du monde de la surface, il était devenu nécessaire d'adapter à la vie terrestre certains des chogotes dont la résistance au froid était singulière, ce que les anciens avaient toujours évité de faire jusqu'alors. Le grand fleuve était désormais mort et les mers avaient perdu la majeure partie de leurs habitants, à l'exception des phoques et des baleines. Tous les oiseaux étaient partis, hormis de grands pingouins grotesques. Sur ce qui s'était passé ensuite, nous n'avons pu faire que des hypothèses. Combien de temps la nouvelle cité souterraine avait-elle survécu? Était-elle toujours là, tel un cadavre de pierre, figé dans les ténèbres éternelles? Les eaux souterraines avaient-elles fini par geler? Quel avait été le destin des cités sous-marines du monde extérieur? Certains des anciens étaient-ils partis vers le nord pour fuir l'avancée de la calotte glaciaire? La géologie actuelle n'a pas trouvé la moindre trace de leur présence. Les terrifiants Migos avaient-ils continué à représenter une menace dans les terres émergées du nord? Peut-on être sûr de ce qui, aujourd'hui encore, survit peut-être dans les abysses ténébreux et inexplorés au plus profond de la mer? Ces créatures semblaient capables de supporter une pression importante, et les hommes de la mer avaient parfois repêché des objets extraordinaires. Et les morsures d'orques expliquaient-elles vraiment les étranges cicatrices que Borchgrevink a observées sur des phoques il y a une génération? Les spécimens découverts par le malheureux Lake n'avaient pas leur place dans ces interrogations, car leur situation géologique démontrait qu'ils avaient vécu au tout début de l'histoire de la cité terrestre. D'après leur emplacement, ils avaient forcément plus de 30 millions d'années, et nous avons conclu qu'à leur époque, la cité souterraine et la caverne elle-même n'existaient pas encore. Le monde qu'ils avaient connu était bien plus ancien. Il y régnait une végétation tertiaire luxuriante. La cité terrestre plus jeune était le siège d'un art florissant, et un vaste fleuve coulait vers le nord, le long du pied des hautes montagnes, jusqu'à un lointain océan tropical. Et pourtant, nous ne pouvions nous empêcher de penser à ces spécimens, et surtout aux 8 organismes parfaitement conservés qui avaient disparu du camp horriblement dévasté de Lake. Toute cette histoire avait quelque chose d'anormal. Les bizarreries que nous avions désespérément essayé d'attribuer à l'accès de folie d'un homme, les tombes inquiétantes, la quantité et la nature des ustensiles disparus, Jedney, la résistance surnaturelle de ces monstruosités archaïques et les mutations qu'avaient subies ces traces et dont témoignaient les bas-reliefs. Durant ces dernières heures, Danforth et moi avions vu beaucoup de choses et nous étions prêts à accepter bien des secrets terrifiants et incroyables de la nature primitive et à garder le silence à leur sujet.